Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 19, Daf Yud Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Venayodat maipila. Et elle ne sait pas de quoi avait l'air cette perte. Rabbi Yehuda savar zilbata ropratichot. Rabbi Yehuda pense, nous allons d'après la majorité des substances solides. Verofratichot et la majorité de ces substances solides, chez l'arba minedami mavian, ont le même coloris que les quatre sortes de sang. Verabanan savre et Rabanan, les sages, le premier avis de la Mishnah pense, zil batar rofratichot lo amrinan. Nous ne disons pas que la majorité des substances solides ont ces coloris. D'après Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yehuda disait dans la Mishnah que dans tous les cas la femme est impure, il parlait d'une situation où une femme a eu une perte d'une substance solide qu'elle n'a pas vue. Rabbi Yehuda rend cette femme impure, car il dit, dans la majorité des cas, ces substances solides ont un coloris impur, et à ce titre, elles rendent la femme impure. Par contre, le premier avis de la Mishnah qui disait qu'uniquement s'il y a avec du sang, la femme est impure, pense qu'on ne peut pas faire une généralité en disant que la majorité des substances solides ont un coloris impur. C'est pour cela que la femme n'est pas impure. En tout cas, la Gemara a voulu amener l'avis de Rabbi Yehuda selon la compréhension de Rabbi Yochanan pour nous dire que bien que l'on rende la femme impure en se fiant à la majorité, cependant, cette majorité n'est pas assez forte pour considérer la femme impure de manière sûre. Si elle touchait de la dîme ne serait pas brûlée. Ce serait donc ce cas que Rabbi Yochanan voulait exclure, en disant qu'il y a uniquement trois cas où l'on se fie entièrement sur la majorité. Nous considérons par la majorité qu'il y a une impureté de manière sûre. Par contre, Rabbi Yochanan a voulu exclure le cas de Rabbi Yehuda, où malgré la majorité, l'impureté n'est pas considérée comme évidente. Nous nous arrêtons là pour le Daf Yutret. Nous allons commencer le Daf Yutet par la Mishnah, se trouvant à la quatrième ligne. Dit la Mishnah, Chamisha damim tmeim baisha. Il y a cinq sortes de sang qui sont impurs chez la femme. Ha'adom, le rouge, Ve'ashachor, le noir, Uchekeren karkoum, et la teinte rougeâtre qui ressort d'un coin de jardin où l'on plante du curcumin, Uchememe adama, et le coloris qu'a une certaine terre diluée avec de l'eau, Uchemazoug, et la teinte d'un vin coupé avec de l'eau. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Af kmeme tiltan, il y a aussi le coloris qu'a de l'eau de tiltan. D'après les traductions, le tiltan est du fenugrec, Uchememe basar tali, est de l'eau ou du jus qui sort de la viande grillée, rôti. Bet Shammai ont donc rajouté deux différents coloris sur les cinq déjà cités, ou Bet Hillel Metaharim, et Bet Hillel purifie ces deux derniers coloris. Hayarok, il s'agit d'après Tosfot d'un rouge qui tourne vers le jaune, Akavia ben Malalel Metame, d'après Akavia ben Malalel, ce coloris est impur, Vachachamim Metaharim, et d'après les sages, il ne l'est pas. Ama Rabbi Meir a dit, Imeno Metame Mishum Ketem, si ce coloris n'est pas impur, quand il y a une tache de sang avec cette teinte, metame mishum mashke, en tout cas, il y aura quand même l'impureté des liquides. La Gemara expliquera le sens de ces paroles. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, lokach velokach, ni l'un ni l'autre, ce rouge jaunâtre, ou peut-être il faudrait dire ce jaune rougeâtre, n'a aucune impureté. La Mishnah va maintenant expliquer les différents coloris déjà cités. Dit la Mishnah, Ezehu Adom, qu'est-ce que le rouge? De quel rouge s'agit-il? Kedam Amaka, comme le sang qui sort d'une plaie. Shachor Kecheret, le noir est comme une sorte de charbon. Aidrement en ancien français. Amok Miken Tame, plus profond ou plus foncé, c'est impur aussi. Dia Miken Taor, plus pâle que ça, moins foncé, ce n'est pas impur. Ukeren Karkoum, et le coloris que l'on retrouve dans un coin de jardin où pousse du curcumin, kebarur shebo, comme les feuilles où le rouge est plus apparent. Uchememe Adama, le quatrième coloris était une terre mélangée avec de l'eau. Mibikat Bet Karem, une terre qui vient de la vallée de Bet Karem. Ou Metzaf Maïm, et on met de l'eau jusqu'à ce que l'eau recouvre légèrement la terre. Uchemazug, le cinquième coloris était le vin coupé. Shenechalakim Maïm, Vechad Yain. Pour deux parts d'eau, une part de vin, Minayain Acharoni, avec du vin qui vient de la contrée du Charon. Dit maintenant la Gemara, Minalan di Kadam Taor, d'où sait-on qu'il y a des sangs qui ne sont pas impurs? Veisha chez la femme, Dilma, Koldam de Atemina, Tame. Il aurait été possible de dire que tout sang s'écoulant de la femme est impur. Amar Rabbi Chama Bar Yosef. Rabbi Chama Bar Yosef a dit, Amar Rabbi Yoshaya, au nom de Rabbi Yoshaya. Amar Kra, le verset dit, dans la paracha de Shoftim, Ki pale mimecha davar la mishpat, quand des lois de justice te seront mal connues. Ben dam le dam, entre un sang et un autre. Ce verset parle d'une situation où l'on ne sait pas comment trancher la halakha. Le verset nous dit que dans ce cas, il faudra demander l'avis de l'autorité halakhique suprême. En tout cas, dans ce verset, nous voyons qu'un des exemples cités est la distinction halakhique entre deux sortes de sang. Il s'agit d'une situation où l'on ne sait pas si un saignement est impur. C'est ce que dit maintenant la Gemara, Ben dam tahor le dam tamé, entre un sang qui est pur et un sang qui est impur. Il ressort en tout cas de ce verset qu'il y a chez la femme un écoulement de sang qui ne serait pas impur. Ce serait donc la preuve de la Torah qu'il y a des écoulements de sang qui ne rendent pas impure la femme. Demande maintenant la Gemara, Ela me'ata, mais maintenant, d'après cette explication, Ben nega, la nega, la suite du verset, qui citait encore un exemple de problème halakhique entre deux sortes de lèpre, Achinami, là aussi il faudrait dire ou expliquer dans le même esprit, Ben negatame, le negataor, entre une tache de lèpre impure et une tache de lèpre qui n'est pas impure. Vechitema Achinami, et si l'on voudrait dire qu'effectivement, c'est ainsi qu'il faut comprendre le verset, negataor mika, une tache de lèpre pure qui s'appellerait nega, est-ce qu'il y a une telle chose? Vechitema, et si l'on voudrait dire, Kulo afar lavan tahoru, qu'il s'agit d'un nega, une tache de lèpre, dont parle le passou qui dit, si la personne entièrement est devenue blanche, par une tache qui couvrirait tout son corps, il n'y a alors pas d'impureté causée par la lèpre, et ce serait donc un cas où il y a un nega qui n'est pas impur, haou, boek mikre. Cela s'appelle boek et non pas nega. Il n'y a donc pas de cas où le mot nega est utilisé alors que la tache n'est pas impure. Et là, ben nige adam, le nige batim ou le nige begadim, vechulant mein. Mais il faudra traduire ou expliquer différemment le verset quand il disait s'il y aura un problème halakhique, ben nega la nega, cela veut dire s'il y aura un problème halakhique ayant pour sujet l'une des différentes tâches de lèpre impure. D'après cette explication, les deux mots nega cités par le verset sont tous les deux impurs. Auparavant, nous comprenions que le verset disait s'il y a un problème halakhique, ce problème étant qu'on ne sache pas différencier ben nega la nega entre une tâche de lèpre qui est impure et une tâche de lèpre qui n'est pas impure. Nous devions alors admettre que l'un des négas cités par le verset n'est pas impur, ce qui n'était pas possible. Maintenant, nous expliquons, s'il y aura un problème halakhique, ben nega la nega, ayant pour sujet l'une des différentes tâches de lèpre qui sont impures, que ce soit une tâche de lèpre sur un être humain, ou que ce soit une tâche de lèpre sur des maisons, ou que ce soit une tâche de lèpre sur des habits. Toutes ces tâches peuvent être impures. Le verset parlerait d'un quelconque problème halakhique ayant pour sujet de départ l'une de ces tâches impures. De ce fait, dit maintenant la Gemara, Achanami, ici aussi, dans le cas du sang, ben dam nida, les dames ziva, de chulant mein, que ce soit pour du sang de nida ou que ce soit pour du sang de ziva, ils sont tous impurs. Ce qui veut dire, quand le verset disait, quand il y aura un problème halachique, ben dam les dames, on expliquera un problème halachique dans l'un des différents enseignements rendant impure une femme. La Gemara au départ avait compris un problème halachique pour différencier entre ben dam les dames, un sang impur et un sang qui n'est pas impur. Il y avait alors une preuve qu'il existe des sangs qui ne sont pas impurs. Mais maintenant nous disons, s'il y a un problème halachique ayant pour sujet l'un des différents sangs impurs, que ce soit du sang de Nida ou du sang de Ziva, qui sont tous les deux généralement impurs. Il faudra comprendre maintenant que le problème halachique dont parle le verset est une question quelconque ayant pour sujet de départ l'un de ces saignements impurs. En tout cas, il n'y a plus de preuve maintenant qu'il existe une sorte de sang qui ne rend pas impur. Nous rappelons, pour celui qui l'aurait oublié, qu'il y a chez la femme une période de Nida et une période de Ziva. Pendant ces deux époques, le sang est impur, mais les lois d'impureté sont différentes. Faisons maintenant un bref résumé. Nous avions vu dans la Mishnah qu'il y a uniquement 5 sortes de sang qui sont impurs. La Gemara avait demandé, d'où savons-nous qu'il existe des sangs qui ne sont pas impurs? La Gemara avait voulu prouver, du verset qui parlait de problème halachique, ben dam les dames, que cela veut dire qu'il y a un problème halachique sur la différence qu'il y a entre un sang impur et un sang pur. Il y a donc des sangs purs qui ne rendent pas impure la femme. La Gemara avait objecté que dans le même verset, on parle aussi de problème halachique, ben nega la nega, entre deux sortes de tsara'at de lèpre. Et là, nous sommes obligés d'expliquer qu'il y a un problème halachique quelconque ayant pour sujet l'une des lèpres impures. De ce fait, il est évident que même les mots ben dam les dames ne prouveraient plus qu'il existe des sangs qui ne sont pas impurs. Revenons maintenant au texte. Aïmaï, dans le cas des saignements, quel est le problème halachique qui pourrait se poser? Bish lamaatam, soit là-bas, dans le cas des lèpres, ikale afluge, il y a lieu de discuter, benige adam, dans les lèpres, qui apparaissent chez un être humain, ou viplukta de Rabbi Yehoshua de Rabbanan, comme la discussion qu'il y a entre Rabbi Yehoshua et les sages, d'Etnan, car il y a une Mishnah qui dit, dans le traité de Negaïm, im baeret kodem les ar lavan tame. Si une tache de lèpre, appelée Baheret, a devancé l'apparition d'un poil blanc, l'homme est impur. Ve'im se'ar lavan, kodem le Baheret, taor. Mais si le poil blanc a devancé la tache appelée Baheret, l'homme n'est pas impur. Safek tamé, dans le doute, l'homme est impur. Ve'Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua dit, Keha. La Gemara va expliquer le sens de ce mot, Ve'amar Rabba. Et Rabba a dit, Keha vetahor, c'est comme une tache de lèpre dont l'apparence s'est affaiblie, où il n'y a pas d'impureté. Rabbi Yehoshua discuterait avec Rabbanan, il pense, dans le doute, l'homme n'est pas impur. Nous avons ainsi trouvé qu'il peut y avoir une discussion, un problème halachique, dans les lois de Tzara'at, de lèpre, chez un homme. La Gemara qui va suivre nous indiquera qu'il y a aussi un problème halachique, une discussion, dans les lois de tâches de Tzara'at, trouvées sur une maison. Traitant de lèpre de Tzara'at, trouvée sur des maisons, Benige Batim, la tâche de Tzara'at qui se trouve sur les maisons, qui haplukta de Rabbi Eliezer Barabi Shimon Barabanan, comme la discussion qu'il y a entre Rabbi Eliezer Barabi Shimon et les sages, d'Etnan, car il y a une Mishnah qui dit, dans le traité de Negaïm, Rabbi Eliezer Barabi Shimon Omer. Rabbi Eliezer Barabi Shimon dit, Leolam en abayit tamé, jamais nous dirons que la maison est impure, ad sheyerae, uniquement si l'on voit, que shne grisin al shne avanim, une tache de la grandeur de deux grisines sur deux pierres, bishne kotlim, sur deux murs différents, Bekeren Zavit dans un coin. Orko que shnegrisin, la longueur est donc de deux grisin, verochvo que gris, et la largeur comme un gris. La vie de Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon est donc qu'une maison ne peut être rendue impure par la lèpre, la tzarat, que s'il y a une tache dans un des coins de la maison qui s'étend sur les deux murs perpendiculaires qui forment le coin, et il faut aussi que sur chacun des murs, la tache ait au moins la grandeur d'un gris. La tache aurait donc au minimum une longueur de deux gris, un gris pour chacun des murs, et une largeur d'un gris. Le gris est une unité de surface ayant un peu moins de 4 cm carrés, environ 2 cm pour chacun des côtés. Il faudrait donc qu'il y ait sur chacun des murs, théoriquement parlant, un carré de 2 sur 2. Ainsi, la tache entière aurait une longueur de 4 cm sur 2 de largeur. Maïta amad Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon. Pour quelle raison Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon a dit ainsi? Ktiv kir ou ktiv kirot. Il y a un verset qui dit que la tache se trouve sur un mur, et un autre verset parle de mur au pluriel. Ezeu kir sheu koshne kirot. Quel est le mur qui peut être considéré comme deux murs? Eve omer zekeren zavit. On dira qu'il s'agit d'un coin. La Gemara a expliqué, puisque nous trouvons dans le chapitre traitant de la tzaraat des maisons, un verset parlant de tâches sur un mur au singulier, et un autre parlant de la même tâche sur des murs au pluriel, comprend de là Rabbi Eliezer de Rabbi Shimon que la tâche doit être dans un coin, elle touchera alors deux murs, et c'est uniquement dans ce cas que la tzaraat est impure. Puisqu'il y a sur ce sujet une discussion, la Gemara l'amène donc pour prouver qu'il peut y avoir des problèmes halakhiques traitant de la lèpre, la tzaraat, sur les maisons. La Gemara va maintenant amener une discussion traitant de la tzaraat, la lèpre, sur les habits, pour nous montrer que là aussi il peut y avoir un problème halakhique dont parlerait le fameux pasouk que nous avons vu au départ. Dit la Gemara, Benige Bgadim, dans les tâches de tzaraat touchant les habits, l'iplukta de Rabbi Yonatan ben Aftulmus de Rabbanan. Comme la discussion qu'il y a entre Rabbi Yonatan ben Aftulmus et les sages. De Tania, car il y a une braïta qui dit Rabbi Yonatan ben Aftulmus Omer. Rabbi Yonatan ben Aftulmus dit Minayin ne prichat begadim sheitora. D'où sait-on que si la tzaraat se propage sur tout l'habit, qu'il n'est pas impur, Neymar karachat ve gabachat pe begadim. La Torah parle de karachat et de gabachat dans les habits. Ve Neymar karachat ve gabachat be adam. Et dans le chapitre traitant de l'homme, on emploie aussi les mots karachat et gabachat. Ma le'alan parach bekulo tahor. De la même manière que là, pour l'homme, si la plaie, la tache, se propage entièrement sur tout le corps, la personne n'est pas impure. Afkan nami parach bekulo tahor. De même, ici, pour les habits, si la tache se propage sur tout l'habit, il n'est pas impur. Cela veut dire, quand la Torah parle de la tzaraat chez l'homme, la Torah mentionne que la tache peut se trouver sur la karachat, la partie arrière de la tête, ou sur la gabachat, la partie avant, à savoir la partie où le crâne commence à descendre vers le visage. Curieusement, ces mêmes mots karachat et gabachat sont employés pour un habit. Rashi dans la Torah explique que pour un habit, quand on parle de karachat et de gabachat, on expliquera karachat un vieil habit, gabachat un nouvel habit. En tout cas, le fait que la Torah emploie ces homonymes pour les habits et pour l'homme, nous apprenons qu'un enseignement doit être transmis des lois concernant la tzaraat chez l'homme aux lois concernant la tzaraat pour les habits. Ainsi, Rabbi Yonatan ben Aftulmus apprend de là que puisque pour l'homme, la Torah dit explicitement que si la tache se propage sur tout le corps, l'homme n'est pas impur, nous apprenons qu'il en sera de même pour les habits. Si la tache se propage sur tout le vêtement, il n'est pas impur. Rabbanan, les sages, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yonatan ben Aftulmus,
Et il y a donc là aussi une discussion sur le sujet traitant de la tarat sur les habits. La Gemara donc trouvait trois cas de problèmes halakhiques pouvant se poser pour la tarat, sur l'homme, sur les habits ou sur les maisons, et c'est de ce genre de problème que le verset parlerait. Le verset disait, je le rappelle, qui palé mimecha davar la mishpat, quand il y aura un problème halakhique et l'on ne saura pas trancher la halakha, ben dam le dam, ben din le din ou ben nega la nega. La troisième possibilité était ben nega la nega, entre des taches de lèpre. La Gemara avait expliqué qu'il faut traduire qu'il y aurait un problème halakhique traitant de l'une des taches impures. Il y a, comme nous l'avons vu, plusieurs sortes de taches impures sur les habits, les maisons, les hommes, et nous avons trouvé aussi des discussions possibles sur chacune des tâches. La Gemara va maintenant demander quelle discussion pourrait-il y avoir sur le premier cas cité par le verset, à savoir ben dam les dames, des saignements. On peut là aussi rappeler que la Gemara avait dit qu'il faut traduire ben dam les dames, un problème halakhique traitant des différents sangs qui sont impurs, que ce soit le sang de Nida ou le sang de Ziva. Dit la Gemara, et la Acha, mais ici, Idam Taor Leka, s'il n'y a pas de saignement qui n'est pas impur, Bema Epligé, quelle discussion pourrait-il y avoir? Quel problème halakhique? La Gemara veut donc prouver que malgré le fait qu'il faut traduire Ben Dam Le Dam, un problème halakhique traitant le saignement impur, le problème halakhique ne peut être que de savoir si le sang est impur ou il ne l'est pas. C'est donc la preuve qu'il existe des sangs qui ne sont pas impurs. Telle est donc la preuve finale de la Gemara maintenant. La Gemara qui va suivre va demander, soit nous savons qu'il y a des sangs qui ne sont pas impurs, mais comment savons-nous quel sang est impur et lequel ne l'est pas? Dit la Gemara, Umimaïde aneteorin vehanetmein, et d'où savons-nous que ceux-là sont purs et que ceux-là sont impurs? Où a-t-on appris quel est le sang qui rend impur et lequel ne rend pas impur? Amar Rabbi Abaou, Rabbi Abaou a dit, De Amarkra, il y a un verset qui dit, ce verset se trouve dans Melachim, ce dernier fait partie des Neviim, des prophètes. Vayiru Moav et Amayim Adumim Kadam. Et Moav ont vu l'eau qui était rouge comme le sang. Ce verset parle de la guerre qui a été faite contre Moav après un miracle qu'avait prophétisé Elisha. En tout cas, nous apprenons de ce verset qu'uniquement un sang qui est vraiment rouge est considéré comme du sang, et ce n'est que dans ce cas que ce sang rend impur une femme. Et c'est ce que dit la Gemara, le Memra, des dames Adom Hu. Cela nous apprend que le sang dont parle la Torah est rouge, à savoir les coloris qui se rapprochent le plus du rouge et qui sont ceux cités par la Mishnah. Il faut préciser maintenant que tous les coloris dont parle la Mishnah sont tous des rouges, ayant chacun un différent ton. Comme nous le verrons plus tard, il y a dans ces coloris une précision extrême qui était appliquée du temps de la Mishnah. Déjà du temps de la Gemara, certains Amoraïm disaient qu'ils n'avaient plus cette capacité de précision. En ce qui nous concerne évidemment, nous ne savons pas du tout distinguer les différents rouges, et la halakha fixe de nos jours que tous les sangs ayant une nuance de rouge sont impurs. Néanmoins, même de nos jours, existent des règles assez précises, connues par les rabbanim, fixant jusqu'à combien une nuance rouge sera considérée comme telle. Revenons maintenant à notre sujet. Nous avons appris d'un verset qu'uniquement les coloris se rapprochant le plus du rouge sont impurs. Nous avons expliqué qu'il s'agit des nuances de rouge dont parle la Mishnah. Il est vrai cependant que la Mishnah appelle l'un de ces coloris le rouge, car c'est ce coloris qui mérite le plus cette appellation. Les autres teints ont uniquement un rapprochement avec ce rouge. La Gemara va demander maintenant, puisque l'on sait du verset qu'uniquement le rouge est impur, pourquoi ne pas dire que c'est uniquement ce que la Mishnah appelle rouge vraiment qui est impur, et non pas les autres coloris cités par la Mishnah? Dit la Gemara, Emma Adom Vetulo, on pourrait dire uniquement le Adom, le rouge cité par la Mishnah, et non pas les autres nuances citées par la Mishnah. Répond la Gemara, Amar Rabbi Abaou, Rabbi Abaou a dit, Amar Kra, la Torah dit, Damea Damea. Il y a dans les chapitres parlant de la Nida, un verset qui dit, Vehi Gilta et Makor Damea, et un autre qui dit, Vetahara im Makor Damea. dans ces deux versets, le mot d'Améa est au pluriel. On parle de sang de la Nida au pluriel. Cela, dans le but de nous enseigner qu'il y a quatre sortes de sang qui sont impurs. En effet, le minimum du pluriel étant de deux, et du fait que ce mot est repris à deux reprises, cela fait quatre. Et c'est ce que dit maintenant la Gemara, Areka Narba, voilà ici quatre. Nous pouvons déduire de ces versets qu'il y a quatre sortes de sang qui sont impurs. Demande la Gemara, Ve'anan Chamishatnan, voilà que nous avons enseigné dans la Mishnah cinq sortes de sang. La Mishnah disait, Chamisha Damim Tmeim Beisha, il y a cinq sortes de sang qui sont impurs chez la femme. Répond la Gemara, Amar Rabbi Hanina, Rabbi Hanina a dit, Shachor Adomhu, le noir dont parle la Mishnah, c'est du rouge, et la Shelaka, mais qui a perdu sa propre couleur. Cela veut dire, il y a en réalité uniquement quatre sortes de sang qui sont impurs. Cependant, la Mishnah a enseigné que quand il y a une tache noire, par exemple, il s'agit d'un sang qui était rouge au départ, qui est devenu noir, peut-être par oxygénation ou par coagulation. Tanya Namiyahi, il y a une braïta dans le même sens, Shachor que Kheret, le coloris noir qui est impur, est comme le Kheret, une matière noire, Amok Miken Tame, plus foncé que cela, c'est impur, Dia, s'il est plus pâle, moins foncé, Afilu que Krol Tahor, même s'il est noir, comme le Krol, une teinture connue à l'époque, le sang n'est pas impur. Veshachorze, et ce noir, l'omitrilato mashrir, ce n'est pas à son début qu'il noircit, et l'akshenekaro mashrir, mais uniquement, une fois sorti du corps, il noircit. Machal le dam maka, un peu à l'image du sang provenant d'une plaie, l'akshenekaro mashrir, après être sorti, ce sang noircit. En tout cas, nous voyons cette braïta, que le noir dont on parle n'est pas un coloris que la Torah aurait interdit, mais uniquement une transformation du rouge. Et c'est à ce titre qu'il est impur. La Gemara qui suit va traiter des paroles de Bet Shammai, que la Mishnah a cité. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Af kememe tiltan, même le coloris, ka de l'eau de tiltan, est impur, à part ce déjà énoncé par la Mishnah. Demande la Gemara, Velet leu le Bet Shammai, damea damea, areka narbaa, est-ce que Bet Shammai ne tient pas de l'enseignement selon lequel des deux mots d'Améa nous apprenons qu'il y a uniquement quatre sortes de sang qui sont impurs? La question est donc du fait qu'il rajoute encore un coloris sur les quatre déjà cités par la Mishnah. Répond la Gemara, Ibaitema letleu, si tu veux je te dirai qu'il ne tient pas de cet enseignement, Veibaitema, et si tu veux je te dirai, Itleu, il accepte lui aussi cet enseignement, Miloama Rabbi Hanina, Shachor Adomu et la Shelaka. Est-ce que Rabbi Hanina n'avait pas dit que le noir est du rouge, mais qu'il a été transformé? Achinami, là aussi, Milkaou de la quai, il s'est transformé. À savoir, le coloris dont parle Bet Shammai est l'une des quatre couleurs de base dont parle la Mishnah, mais qui, une fois à l'air, a changé d'aspect. La Gemara qui suit va maintenant parler de la vie de Bet Hillel. Il faut rappeler d'abord qu'au départ, la Mishnah disait qu'il y a cinq sortes de sang qui sont impurs. Puis, la Mishnah citait l'avis de Bet Shammai, selon lequel il y a un sixième coloris qui est impur. Il semble donc qu'il y a déjà une discussion entre le premier avis, Tanakama, et Bet Shammai. Le premier avis n'admettant pas que le coloris cité par Bet Shammai est impur. Puis, la Mishnah cite encore que Bet Hillel discute avec Bet Shammai et pense que le coloris cité par Bet Shammai n'est pas impur. La Gemara va donc demander que l'avis de Bet Hillel semble être une répétition de l'avis de Tanakama, le premier avis de la Mishnah. Dit la Gemara, ou Bet Hillel metaharin, la Mishnah disait que Bet Hillel ne rend pas impur le coloris de Bet Shammai, haïnu Tanakama. Ce sont les paroles de Tanakama. Répond la Gemara, Ika Benayou, nous tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Yutet Amud Bet.
Dites Lot, il y a comme différence entre eux le doute. Ce qui veut dire, Tanakama et Bet Hillel ne sont pas exactement du même avis. D'après Tanakama, il y a effectivement uniquement 5 sortes de sang qui sont impurs de manière sûre. Néanmoins, il est d'accord que le coloris cité par Beit Shammai est impur dans le doute, alors que Beit Shammai rend impur ce coloris de manière sûre. Par contre, Beit Hillel pense que le coloris en question n'est pas impur du tout. C'est pour cela que Beit Hillel disait « Tahor, Metaharin, ce sang est pur, il n'est pas impur du tout. » Et il y a donc là trois avis différents. Beit Shammai qui rend impur de manière sûre, Tanakama dans le doute, et Beit Hillel purifie entièrement. La Gemara va maintenant traiter d'une autre partie de la Mishnah. La Mishnah disait « Hayarok, le rouge jaunâtre, Akavia ben Mahalalel metame. » Akavia ben Mahalalel disait que cette couleur aussi est impure. Demande la Gemara, « Veletle le Akavia damea damea arikan arba. » Est-ce que Akavia ne tient pas de la dracha, de l'enseignement, qui apprenait de damea damea qu'il y a uniquement quatre sortes de sang qui sont impurs? Répond la Gemara, « Ibaitema vetle. » Si tu veux, je te dirai, il ne tient pas de cet enseignement. Veibaitema, et si tu veux, je te dirai, itle, il tient de cet enseignement, il le suit. Milo amar Rabbi Chanina, Shachor, Adamu et la Shelaka. Rabbi Chanina n'a-t-il pas dit que la couleur noire est en réalité du rouge, mais qu'il a été transformé? Achanami, ici aussi, Milkao de la quai, il s'est transformé, à savoir, d'après Akavia, d'après cette réponse, le rouge jaunâtre est en réalité une des quatre couleurs de base de la Mishnah qui, au contact de l'air, s'est transformée. La Mishnah disait, après les paroles de Akavia ben Mahalalel, que Chachamim, les sages, discutent avec lui et rendent pur, ne rendent pas impur, cette couleur. La Gemara va donc là aussi demander que déjà de Tanakama, le premier avis de la Mishnah, nous voyons qu'il n'est pas d'accord avec Akavia ben Mahalalel. Chachamim semble donc être une répétition de cet avis. Passons au texte, « Vachachamim metaharin » et les Chachamim, les sages, ne rendent pas impur cette couleur. Demande la Gemara, « Haïnu Tanakama » C'est comme Tanakama, cet avis semble répéter l'avis de Tanakama déjà énoncé. Répond la Gemara, « Ika benayu litlot » Il y a comme différence entre eux le doute. Là aussi, la Gemara explique que Tanakama, contrairement aux cinq coloris qu'il mentionne, ne rend pas impur de manière sûre cette couleur. Cependant, dans le doute, il est d'accord que le sang de cette couleur est impur, alors que Akavia le rend impur de manière sûre. Chachamim, par contre, considère qu'il n'y a pas lieu du tout de rendre impur ce sang. La Gemara va continuer d'expliquer la suite de la Mishnah. Cette dernière citait l'avis de Rabbi Meir, qui, suite aux paroles de Chachamim que nous venons de voir, disait « Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir a dit, « Imeno metame mishum ketem, vechule, si ce sang ne rend pas impur une femme qui a trouvé une tache de cette couleur sur son habit, cependant, l'impureté relative au liquide sera appliquée. » Dit la Gemara, « Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, « Yarad Rabbi Meir, leshitat akavia ben mahalalel, vetime. » Rabbi Meir est descendu, ça veut dire il a suivi l'avis de Akavia ben Mahalalel, et donc, lui aussi, considère qu'un sang de cette couleur est impur. Ve'achike amar le ule rabbanan. Et c'est ainsi qu'il a dit au Chachamim, au sage, qui disait que ce sang n'est pas impur. Nehe decha dekamashkechat ketem yarok amana lometamitu. Bien que quand l'on trouve une tache rouge jaunâtre sur un habit, d'après vous, ce sang ne rend pas impur. Echa dekachazia dam yarok migufa tetame. Là où elle verrait du sang rouge jaunâtre de son corps, à savoir quand ce sang coule directement, il devrait rendre impur. Soyez d'accord qu'il est impur. La Gemara a voulu dire, Rabbi Meir lui-même pense entièrement comme Akavia ben Mahalalel. Et même s'il y a une tache de cette couleur, il rend impur la femme. Ainsi, en discutant avec Chachamim les sages, il leur dit, soit je peux comprendre que si ce sang est trouvé sous forme de tache, sur un habit, vous pensez qu'il est très peu probable que ce sang provient des règles, du fait de sa couleur inhabituelle, et c'est pour cela que vous dites que ce sang n'est pas impur, mais continue Rabbi Meir, soyez au moins d'accord que si nous sommes sûrs que ce sang provient des règles, du vagin, que le sang est impur. La Gemara n'accepte pas cette manière de comprendre les paroles de Rabbi Meir, car elle demande « Yahi ». Si c'est ainsi, ce qu'avait dit Rabbi Meir, « Imeno metame mishum ketem, metame mishum ashke », s'il ne rend pas impur sous forme de tache de sang, on devrait au moins appliquer l'impureté relative au liquide. « Mishum roa mi baele », il aurait fallu dire « À la place de mishum ashke, mishum roa », l'impureté relative à un écoulement de sang devrait être appliquée. La Gemara demande que l'explication que nous venons de voir ne rentre pas dans les mots de Rabbi Meir dans la Mishnah. En effet, Rabbi Meir disait qu'il faut au moins appliquer au sang de cette couleur l'impureté relative au liquide. La Gemara ne comprend pas de ces mots que cela voudrait dire s'il y a des règles de cette couleur, la femme est impure. De ce fait, dit maintenant la Gemara, elle a arriqué à Marléou, mais c'est ainsi qu'il leur a dit que Rabbi Meir a dit à Chamim, Nehe echadeka chaziadam yarok meikara lometamitu. Bien que si la femme a vu un écoulement de sang yarok, rouge jaunâtre, au départ, vous ne la rendez pas impure. Echadeka chaziadam adom, là où elle verrait du sang rouge, un écoulement de sang rouge. Veadar chaziadam yarok, et après cela elle verrait un écoulement de sang yarok, rouge jaunâtre, tetame, ce sang devrait être impur. Mide deave amashkeza vezava, comme nous le trouvons pour les liquides, les substances liquides, excrétées du zav ou de la zava. En effet, dans les lois de pureté, nous trouvons qu'un homme qui est zav ou une femme zava, ce qui veut dire une femme qui a eu un écoulement de sang pendant la période de nida ou de ziva, sont impurs et, du fait de leur impureté, toute substance liquide, comme de la salive ou de l'urine, qui sont excrétées de leur corps pendant la période d'impureté, sont eux aussi impurs. Ces substances pourront par contact rendre impur un homme, un objet ou des aliments. En ce qui nous concerne, dit la Gemara, c'est ainsi qu'il faut expliquer les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, Achamim, soit d'après vous, un sang yarok, rouge jaunâtre, ne rend pas impur une femme s'il est trouvé sous forme de tache sur un habit. Cependant, reconnaissez, soyez d'accord, qu'une femme qui est déjà nida, après avoir eu des règles de sang rouge, et qu'ensuite elle a eu des pertes yarok, de couleur rouge jaunâtre, acceptez, soyez d'accord, que ces pertes sont impures, comme toutes les autres substances liquides, excrétées durant cette période. Cela rentrerait bien dans les mots de Rabbi Meir qui disait qu'il y a lieu au moins d'appliquer l'impureté relative au liquide, à savoir aux substances liquides du zav et de la zava. D'après cette explication, quand Rabbi Meir disait au départ, soit vous n'appliquez pas l'impureté à une tache de sang de cette couleur, c'est uniquement un exemple, à savoir une des éventualités par laquelle le sang rend impur une femme. Il en serait de même s'il s'agissait d'un écoulement de sang réellement, de couleur rouge jaunâtre, d'après Chachamim, il ne serait pas impur. Continue la Gemara et dit, Verabanan, et Rabanan, les sages, pensent, Dumia de roc, ce qui ressemble à la salive. Les substances liquides qui sont impures chez le zav et la zava sont uniquement celles qui ressemblent à la salive. Maroc chez Mitagel Viotse, de la même manière que le roc, la salive, s'accumule petit à petit avant de sortir, Afkol chez Mitagel Viotse, de même, sont impures, comme la salive, tout ce qui s'accumule avant de sortir. Les Afukehai, est exclu, ce cas, les pertes de sang rouge jaunâtre, des El Mitagel Viotse, qui ne s'accumulent pas avant de sortir. Contrairement à la salive, qui s'accumule petit à petit dans la bouche, et peut alors être crachée en une fois, le sang ou les pertes provenant de l'utérus s'écoulent directement goutte à goutte. Ainsi, d'après Rabbanan, même l'impureté appliquée aux substances liquides du zav et de la zava ne seront pas appliquées pour une perte de sang rouge jaunâtre. Dit alors la Gemara, Yahi, si c'est ainsi, Shapir Kamre le Rabbanan et Rabbi Meir. L'argument qu'ont dit Rabbanan Rabbi Meir est meilleur. Ils ont raison. Cette règle, exigeant une ressemblance à la salive, devrait être acceptée même par Rabbi Meir. De ce fait, la Gemara refute encore une fois l'explication qui a été donnée dans les paroles de Rabbi Meir. Dit la Gemara, Ella a riqué à Marléou, mais c'est ainsi qu'il leur a dit, que Rabbi Meir a dit à Rabbanan, il faut expliquer différemment les arguments de Rabbi Meir cités par la Mishnah. Les hevek mashke, qu'il soit comme un liquide, qu'il soit considéré comme un liquide, les archir et azraim, qui rendent aptes des graines, des plantes, à recevoir l'impureté. La Torah nous enseigne, dans les lois de pureté, que des plantes qui n'ont jamais été mouillées ne deviennent pas impures quand elles sont en contact avec un reptile mort, par exemple. Et c'est uniquement après avoir été rincées ou avoir été en contact partiellement avec un liquide qu'ils peuvent devenir impurs. Il y a une liste précise de liquides qui peuvent rendre aptes à l'impureté. Ils ont pour abréviation Yad Shachat Dam. Il s'agit entre autres de l'eau évidemment, de l'huile, du lait, du sang, du vin, etc. Ainsi, la Gemara veut maintenant expliquer les paroles de Rabbi Meir de la manière suivante. Rabbi Meir disait à Chachamim, aux sages, soit, d'après vous, il n'y a pas d'impureté provoquée par le sang de couleur rouge jaunâtre. Cependant, soyez d'accord qu'il y a quand même lieu d'appliquer la loi d'impureté relative au liquide, cette loi qui rend aptes les plantes à recevoir l'impureté. Des Rabbanan et Rabbanan les sages, Bae Dam Chalalim, Veleka. Il y a besoin que ce soit du sang provenant de la plaie d'une victime, et ce n'est pas le cas. En effet, d'après Rabbanan, ce n'est pas n'importe quel sang qui rend apte à l'impureté. Ces derniers pensent, étant donné que le verset duquel on apprend que le sang fait partie de ces liquides, parle uniquement d'un sang spécifique, nous dirons que c'est uniquement ce sang qui aura la capacité de rendre apte à l'impureté. Il s'agit uniquement de sang coulant lors de la mise à mort d'une personne. La Gemara continue et dit ici aussi, Iachi, si c'est ainsi, Shafir Kamrele Rabbanan et Rabbi Meir. L'argument qu'on dit Rabbanan à Rabbi Meir est meilleur. Ils ont raison. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir ne pense pas comme Rabbanan? Ella, Achi Kamarleu. Mais c'est ainsi qu'il leur a dit. Alfua Bixira Shava. Apprenez cela par une Xira Shava. Une Xira Shava est une règle talmudique selon laquelle, si nous trouvons dans deux sujets différents un mot similaire qui, généralement, ne sont pas nécessaires dans le contexte, c'est pour nous indiquer qu'il y a lieu d'apprendre des lois d'un sujet à l'autre. Ainsi, dit Rabbi Meir, Ktivacha, un verset dit ici, dans Shira Shirim, Shelachayich Pardes Rimonim. Shelachayich peut être traduit par ce que tu envoies en parlant d'une femme. Et par destrimonim veut dire un verger de grenadiers. Ce verset cite les paroles d'Hachem remplies d'admiration pour son peuple. Il y a plusieurs manières d'expliquer ce verset. Dans notre contexte, Rachid explique de la manière suivante, chez la Chahir faisant allusion aux règles de la femme qui sont rejetées, chez la Chahir pouvant être traduit par ce que tu rejettes en parlant d'une femme. Ainsi, Hachem fait l'éloge des filles d'Israël qui sont comme un verger de grenadiers clôturé. C'est une manière élogieuse de parler des filles d'Israël qui font preuve de retenue pendant la période de Nida. En ce qui nous concerne, nous trouvons que le verset emploie le mot « shelachayir » de la même racine que « sholéach » en parlant des règles de la femme. « Uktiv atam » et il y a un verset là-bas dans « Eyov, Job » Vesholeach Mayim Alpene Chutzot. Le verset parle de la grandeur d'Hachem qui envoie l'eau, la pluie, sur les étendues découvertes. Dans ce verset, le mot Sholeach est utilisé. Ainsi, apprend Rabbi Meir qu'il y a lieu de faire le lien entre les deux versets et nous donnons aux pertes de la femme, à ses règles, les lois appliquées à de l'eau. Puisque l'eau peut rendre apte le végétal à recevoir une impureté, il en sera de même pour les règles de la femme. Dit la Gemara de Rabbanan, et Rabbanan les sages, Adam dan kalvachomer me'atzmo, un homme peut de lui-même utiliser la règle talmudique du kalvachomer, cette règle talmudique qui permet d'apprendre, de déduire d'un sujet à l'autre, à plus forte raison, ve'en Adam dan gzera shava me'atzmo, par contre un homme ne peut pas de lui-même utiliser la règle talmudique de Gzera Shava. Cette règle pouvant être utilisée uniquement s'il est transmis de maître à élève, qui qu'il y a lieu de faire le lien entre deux mots similaires de deux sujets différents. Il en ressort finalement, d'après Rabbi Meir, le sang yarok, rouge jaunâtre, rend impur une femme, et il demandait à Rabbanan, les sages, soyez d'accord au moins que ce sang peut rendre apte une plante à devenir impure. Il apprend cela du Mouktera Shava. Cependant, Rabbanan, comme nous l'avons vu, n'accepte pas cette Mouktera Shava. La Gemara va continuer de traiter la suite de la Mishnah. La Mishnah disait, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Lokar Vechule, ni l'un ni l'autre, à savoir, Rabbi Yossi discutait avec Akavia Ben Mahalalel et Rabbi Meir, et il disait, aucune impureté n'est applicable au sang rouge jaunâtre, Yarok. Demande la Gemara, Haïnu Tanakama, ce sont les mêmes paroles que Tanakama. Rabbi Yossi semble répéter l'avis de Tanakama déjà énoncé. Répond la Gemara, Hakamash Malan, cela vient nous apprendre, Man Tanakama, qui est Tanakama? Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. À savoir, le Tanakama, le premier avis de la Mishnah qui disait qu'il y a cinq sortes de sang uniquement qui sont impurs, et en réalité Rabbi Yossi. Au début, la Mishnah n'avait pas précisé son nom, et c'est uniquement ici qu'elle le dévoile. La Gemara continue et nous dit, « V'chol haomer davar b'shem omro, mevigeula laolam » Et tout celui qui dit, qui ramène des paroles en citant la personne qui est à l'origine de ces paroles, amène au monde la libération. C'est donc pour cela que la Mishnah précise spécialement que l'auteur des paroles citées au départ dans la Mishnah, Tanakama, est en réalité Rabbi Yossi. La Gemara continue et dit, « Ezehu adom kedamamaka » La Mishnah disait, « Quel est le coloris rouge ?»« Comme le sang d'une plaie. »« Mai kedamamaka » Qu'est-ce qu'on appelle le sang d'une plaie ?« Amar Rav Yehuda amar Shmuel » Rav Yehuda a dit, au nom de Shmuel, « Kedam shor shachut » Comme le sang d'un taureau égorgé. Demande la Gemara, « Velema kedam shrita » Pourquoi ne pas avoir dit « Kedam Shrita » comme le sang de l'égorgement? La Mishnah disait « Kedam Amaka » comme le sang d'une plaie. Et si nous devons expliquer que le sang d'une plaie veut en réalité dire le sang de l'égorgement d'un taureau, pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas été plus précise? Répond la Gemara, « Yamar Kedam Shrita » Si elle avait dit « comme le sang de l'égorgement »« Ava Amina Kekula Shrita » Nous aurions compris « durant tout l'égorgement ». À savoir, la couleur rouge citée par la Mishnah correspond à la couleur de tout saignement s'écoulant lors de l'égorgement. Kamash malan kedam amaka, ainsi les mots kedam amaka cités par la Mishnah viennent nous apprendre kitrilat akash el sakin, comme le début de la plaie provoquée par le couteau. La Gemara explique que les mots cités par la Mishnah kedam amaka, comme le sang d'une plaie, viennent préciser qu'il s'agit uniquement du saignement s'écoulant au début de la shrita, de l'égorgement. Le saignement causé par la première plaie du couteau. La Gemara considère qu'il y a plusieurs coloris de sang s'écoulant lors de la shrita, et quand la Mishnah parle de rouge, il s'agit uniquement du coloris de sang au début de la shrita d'un taureau. Oula Amar, Oula a dit, Kedam Tzipor Chaya, comme le sang d'un oiseau, d'un moineau vivant. Iba Eleu, on s'est interrogé, Chaya le afuke shachut, est-ce que le mot Chaya vivant veut exclure un moineau égorgé, Odilma, ou bien le afuke kachush, pour exclure un moineau faible, en mauvaise santé? En effet, le mot Chaya vivant peut aussi être traduit par en bonne santé. La Gemara s'est donc interrogée, est-ce que d'après Oula, il faut comprendre que le rouge doit être comme le sang d'un moineau vivant ou bien comme le sang d'un moineau en bonne santé? Sur ce, dit la Gemara, Teku, nous restons avec une interrogation. Zeire Amar Rabbi Hanina, Zeire a dit au nom de Rabbi Hanina, Kedam Ma'acholet Shel Rosh, comme le sang d'une bestiole, d'un insecte, qui se trouve sur la tête d'un être humain. Il doit probablement s'agir d'une sorte de poux. Objecte la Gemara, mitivé, il y a une objection d'une Mishnah se trouvant dans le 8e chapitre. Harga Ma'acholet, la Mishnah dit, si une femme a tué un insecte appelé Ma'acholet, Arezet Olaba, si elle trouve après une tache de sang sur un habit, elle peut supposer que le sang a pour origine cet insecte. En tout cas, nous voyons que la Mishnah, contrairement à Rabbi Hanina, ne précise pas qu'il doit s'agir uniquement d'une maharolet se trouvant sur la tête. Et c'est ce que demande maintenant la Gemara. Maïlav de Kulegoufa, cela ne veut-il pas dire que la maharolet peut provenir de n'importe quelle partie du corps? Et ce serait donc une question du Rabbi Hanina. En effet, la Mishnah parle d'une tache de sang où il y a lieu de supposer qu'elles proviennent des règles d'une femme et qui rendraient impure une femme. Il s'agirait donc d'un coloris impur. Et si la Mishnah dit qu'il y a lieu de supposer que ce sang provient d'une maharolet, c'est que le sang de la maharolet est le même que le sang impur de la femme. Aussi, puisque la Mishnah ne précise pas qu'il s'agit d'une sorte de maharolet se trouvant sur la tête, il en ressort que n'importe quelle maharolet a du sang ressemblant au coloris impur. C'est donc une question sur Rabbi Hanina qui exigeait qu'il s'agisse uniquement d'une sorte de maharolet se trouvant sur la tête. Répond la Gemara, lo de rocha. Non, il faudra comprendre dorénavant que la Mishnah en réalité parle uniquement d'une maharolet ayant pour provenance la tête d'un être humain. Ami Vardinaa, amar Rabbi Abaou. Ami Vardinaa a dit au nom de Rabbi Abaou, le rouge dont parle la Mishnah, Kedam et Tzbaktana Selyad, et comme le sang de l'auriculaire de la main. Shenakfa, qui s'est blessé, Vechaita, et qui a cicatrisé, Vechazra Venakfa, et qui de nouveau s'est blessé. Il s'agit donc d'une plaie sur l'auriculaire, qui a cicatrisé, et qui de nouveau s'est réouverte, le sang ayant alors un autre aspect que la première fois. Veloshel Kol Adam, et pas de tout homme, Elashel Bachur, mais uniquement d'un jeune homme, Shelo Nasa Isha, qui ne s'est pas marié, Ve'ad Kama, et jusqu'à quel âge? Ad Ben Esrim, jusqu'à 20 ans. Récapitulons, d'après Rabbi Abaou, le sang rouge dont parle la Mishnah doit avoir le même coloris que le sang sortant de l'auriculaire d'un jeune homme de moins de 20 ans qui ne s'est pas encore marié, et il faut aussi que le sang sorte de l'auriculaire d'une plaie qui s'est réouverte après avoir cicatrisé. Sur ce, objecte la Gemara, mitivé, toujours une question de la Mishnah du 8e Perek, du 8e chapitre, Tola Bibna ou Bibala. Elle peut supposer que c'est de son fils ou de son mari. Il s'agit d'une femme qui a trouvé une tache de sang sur un habit ou un drap, et il se peut que le sang provienne de son mari ou de son fils qui ont une plaie. Il se peut que leur plaie a touché l'endroit où la tache a été trouvée. La Gemara développe la question et dit, Bishlama Bivna, soit de son fils, Mashkiratla. On peut trouver un tel cas d'après Rabbi Abaou, si le fils a moins de 20 ans et qu'il a une plaie à l'auriculaire, comme nous l'avons dit. Et là, mais son mari, Echi Mashkiratla, comment peut-on trouver un tel cas? En effet, d'après Rabbi Abaou, une des conditions est de ne pas être marié. Ainsi, même si le mari a moins de 20 ans, son sang a une autre couleur, puisqu'il est déjà marié. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Nachman Bar Yitzhak a dit, Kegon, par exemple, dans un cas, chez Nichnesa Lechupa, où elle s'est déjà mariée, Velon Yivala, et ils n'ont pas encore eu de rapports conjugaux. Quand Rabbi Abaou parlait de changement de couleur de sang après le mariage, cela dépend des rapports conjugaux. Ainsi, on peut expliquer la Mishnah que le jeune mari avait moins de 20 ans et n'avait pas encore eu de rapports conjugaux. Rav Nachman Amar, Rav Nachman a dit, le rouge dont parle la Mishnah, Kedam Akaza, comme le sang d'une saignée. Mitivé, la Gemara objecte maintenant d'une braïta, Maase Vetala Rabbi Meir Bekilor, de Rabbi Tala Bisraf Shikma. Il y a eu une fois un cas d'une tache de sang, et Rabbi Meir a supposé que la tache provenait d'une sorte de pommade de couleur rouge, Rashi traduit par emplâtre. Il s'agit en tout cas d'une crème rouge connue à l'époque qui se mettait sur les blessures.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.